Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Émilie Julia.
Bienvenue dans cette émission et bienvenue à vous, Marc Bresson, dans notre studio à Canal Academy. Vous êtes Grand Prix du roman de l'Académie française 2008, écrivain. Nous vous recevons aujourd'hui pour parler de Victor Hugo, de ses funérailles plus précisément. Tel est le titre du livre paru dans la collection « Je me souviens » des éditions Michel de Maulle. Les funérailles de Victor Hugo ont été un moment fort de l'histoire de France. C'est ce que vous dites à ce propos dans la quatrième de couverture du livre que j'ai envie de lire pour démarrer. Le lundi 1er juin 1885, 2 millions de Français accompagnent le cercueil de Victor Hugo de l'Arc de Triomphe au Panthéon, qu'on a rouvert en catastrophe pour l'accueillir. La plus grande foule jamais rassemblée à Paris. Un événement fondateur pour la toute jeune République. « Tu te souviendras de cette journée », ordonnent les parents, « et tu la raconteras à tes enfants et à ceux qui viendront après. » Marc Bresson, ce moment est-il un moment historique au point, justement, comme le dit la quatrième de couverture, de s'en souvenir des siècles et des siècles après?
Écoutez, je crois qu'il y a des moments qui sont vraiment des moments de retournement d'une conjoncture. Bon, et ces funérailles de Victor Hugo, d'abord, comme vous l'avez dit, bon, c'est le plus grand événement par le nombre de gens qui y ont été associés de toute l'histoire de France, même mai 68, etc. Ça paraît comme des foules toutes petites à côté des 2 à 3 millions de gens qui étaient là, venus de Paris.
3 millions, mais comment on peut caser 3 millions aux Champs-Élysées?
Alors, dans le livre, donc, il y a des illustrations qui sont extraites d'une revue de l'époque. Hein. Ce sont des dessins, c'est juste avant que la photographie entre dans les revues. Et on voit, par exemple, sur la place Saint-Germain-des-Prés, des dames avec des robes très longues qui sont assises, les jambes pendant dans le vide, sur les immeubles, qui sont toujours les mêmes immeubles, car cet endroit n'a pas du tout changé. Et donc on se dit qu'elle devait avoir un vertige épouvantable, mais non, pas du tout, et que c'était assez dangereux quand même. Et apparemment, personne n'est tombé d'aucun toit. Alors non seulement il y avait des gens partout, depuis l'étoile jusqu'au Panthéon, mais en plus, il y avait derrière le corbillard de Victor Hugo, et Victor Hugo avait demandé d'utiliser le corbillard des pauvres pour montrer qu'il était du côté des misérables, l'œuvre qui lui avait rapporté le plus d'argent, comme disent les mauvais et méchants observateurs. Donc il était dans le corbillard des pauvres, et derrière lui, il y avait, je crois, 2000 délégations qui s'étaient fait enregistrer, et qui représentait les francs-maçons de la Lozère, la Comédie-Française, enfin tous les corps constitués qui, d'une façon ou d'une autre, avaient eu des relations avec Victor Hugo.
Et suivaient le cortège de façon à rendre hommage à l'écrivain. Est-ce que c'est l'écrivain qui a rassemblé le plus de monde dans l'histoire de la littérature?
Oui, à l'évidence. Et moi qui avais un peu oublié Victor Hugo, enfin ma grand-mère m'a indéfiniment lu, c'est un peu l'un des sens de ce livre, m'a indéfiniment lu Les Contemplations quand j'étais tout petit, m'a fait jouer Ruy Blas et je ne sais quoi quand j'avais 8 ans. Donc j'ai relu beaucoup de choses après d'ailleurs avoir écrit ce livre pour ne pas être trop gêné. Et effectivement, ce personnage est absolument fascinant dans toutes les dimensions, que ce soit le roman, enfin 93 par exemple, ou Les Travailleurs de la mer, sont vraiment des romans d'une extrême beauté très fort. Moi j'avais le sentiment que tout ça, ça devait être des récits pour la jeunesse, et en fait pas du tout, mais son théâtre marche encore très très bien. Récemment j'ai vu Marie Tudor, une pièce jugée la plus mauvaise ou presque du poète, j'ai pleuré. Je veux dire, on parlait évidemment de la poésie, sans parler de ses mémoires qui s'appellent « Choses vues », où il raconte au fil des années les gens qu'il voyait, les événements petits ou bien au contraire très grands comme la révolution de 48. Et c'est fascinant, j'ai dit à un personnage très important qui pourrait être dans l'Académie que je trouvais que c'était bien mieux finalement que les mémoires d'outre-tombe. Il a hurlé, mais je crois que c'est tout à fait autre chose, c'est idiot de comparer, mais c'est vraiment une œuvre qui mériterait d'être beaucoup plus lue qu'elle n'est. Tellement ce Victor Hugo a des points de vue sur toute chose et a une sorte de clairvoyance. Et puis, de courage, car il est vrai que jusqu'en 1848, ça a été beaucoup dit, Il était quand même toujours dans le sens, enfin pas toujours, mais il était souvent dans le sens du Manche, ayant été pair de France, etc. Mais à partir de 1848, il aura une sorte de courage insensé, il ira en exil, quand il part caché avec juste quelques manuscrits, on va saisir sa maison, on vendra tous ses meubles, enfin je veux dire, il a vraiment vécu une vie très très courageuse, et rentré en France en 1870... accueilli évidemment triomphalement parce qu'il avait été le républicain, etc., il va se mettre aussi sur beaucoup de causes perdues, et notamment sur l'amnistie pour les communards, où il était très seul, vraiment, hein, et donc sur le thème que les créatures de Dieu, puisque Dieu pour lui c'est au centre de toutes choses, Dieu et pas ses églises, il va se mettre à avoir des points de vue comme ça courageux sur... toute une série de choses, la peine de mort, ça c'est une vieille obsession, il est violemment contre, les conditions carcérales, enfin beaucoup de sujets de société, et puis la misère, bon la misère c'est quand même aussi quelque chose qu'il a, effectivement Les Misérables ça a très bien marché, et certains marxistes, léninistes à l'époque, enfin ils n'étaient pas léninistes à l'époque, mais notamment le Jean de Marx a écrit, mais c'est abominable, ce type a fait sa fortune sur le dos des pauvres, n'empêche qu'il a crié indéfiniment pour dire que tous ces gens, toutes ces existences perdues dans les mines, partout, c'était atroce, et que vraiment l'objectif d'une société, c'était de donner le minimum de confort, de nourriture, etc., aux gens. Et enfin, ce type que j'ai un peu pris au départ pour le souvenir de cette grand-mère que j'ai beaucoup aimée, qui m'a vraiment tout apporté de ce que je suis, j'ai découvert que je l'aimais quand même, je l'aimais profondément et qu'il fallait le lire, que je continuerais à le lire parce qu'on peut le lire pendant beaucoup de vie.
Et c'est tout ça qui fait la différence entre les écrivains et Victor Hugo, ce symbole du courage, de la politique, de l'homme politique derrière l'écrivain, de la dimension sociale, des questions qu'il pose quand elles ne sont pas toujours posées et qui fait que, je vous cite dans le livre, Madeleine n'avait jamais vu pleurer son père. Même pendant de longs mois de souffrance que lui avait infligé je ne sais plus quelle maladie. Mais il ne craignit pas, en ce jour d'affliction nationale, d'extérioriser devant sa fille, devant nous, son immense chagrin. On le sait, les hommes ne pleurent pas, mais ils pleurent pour la mort de Victor Hugo.
Ouais. Mais je veux dire, quand on lit, ce que me disait ma grand-mère, parce que donc ma grand-mère avait 7 ans quand Victor Hugo est mort, donc son père l'a emmené effectivement à cette cérémonie insensée. Il lui a effectivement dit cette chose que vous disiez au début, c'est-à-dire tu te souviendras et tu raconteras. Bon, et donc elle s'est souvenue et elle m'a raconté quand j'avais 6-7 ans. Hein. Et donc c'est devenu le récit fondateur où je lui disais, mais alors, quand vous êtes arrivé à la Concorde, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Bon. Et elle me racontait tout, alors elle inventait peut-être un peu, puis peut-être mon imagination aussi a fait que j'en rajoute encore un peu.
Oui, parce que vous n'avez pas tout retenu de l'époque.
Non, bien sûr, j'ai pas tout retenu. Et puis surtout, non, elle avait des coupures de presse, elle avait bon, toute une série de choses qui me sont aussi familières. Hein, mais je veux dire, c'est vrai que c'était quelque chose de tellement étrange, de tellement exotique pour un petit gamin comme ça, que ça m'a marqué très profondément.
Est-ce que les gens affluaient de province et de très loin pour venir aux funérailles ?
Oui, alors il y avait des gens évidemment de toutes les provinces françaises, hein, y compris de l'Algérie, je parle un peu de ça, parce que j'ai retrouvé cette illustration étonnante, le char de l'Algérie pleurant Victor Hugo.
Même donc, de l'Algérie.
Donc
incroyable.
L'Algérie était française depuis 55 ou 60 ans. Hein. Et donc il y avait un char avec un palmier, avec des gens en vêtements, oui, en burnous, etc. Et puis il y avait des gens qui étaient venus de toute l'Europe, de l'Italie, évidemment, puisqu'il avait beaucoup milité pour l'unité italienne, de la Belgique, de l'Allemagne, enfin de beaucoup, beaucoup d'endroits. Enfin, c'est une cérémonie tout à fait étonnante. Et en plus, Victor Hugo, enfin, une des raisons, c'est que ce Victor Hugo avait vraiment été un citoyen du monde, peut-être pas dès le début, mais par exemple à Guernesey, quand on va voir la maison de Hauteville où il a passé 12 ans de sa vie, où il a d'ailleurs tout construit, enfin c'est un endroit absolument incroyable. Et alors avant de partir en 1870, quand la République est revenue, il a planté un chêne aux États-Unis d'Europe. Donc, il ne voulait pas quitter cet endroit, l'Angleterre, quand même, sans planter un arbre comme ça. Et puis, il n'a pas cessé de dire qu'il se sentait citoyen du monde. citoyen du monde, ça voulait dire effectivement la paix internationale, la réunification des nations et tout ça. Et puis ça voulait dire les femmes, parce qu'en fait, il a été vraiment un féministe formidable. Il n'a pas cessé de demander, enfin, vers la
défendre
fin de sa vie,
les femmes.
Le droit de vote pour les femmes, des choses comme ça, qui apparaissaient comme tout à fait burlesques à tous les bons bourgeois et tous les bons ouvriers, d'ailleurs, de cette époque. Donc ce personnage... Enfin, j'ai l'air d'être une sorte d'inconditionnel, et bien oui, je le suis.
Écoutez, merci en tout cas d'être venu nous parler des funérailles qui vont nous faire redécouvrir la vie de cet homme illustre, Victor Hugo, dont nous fêtons l'anniversaire, la célébration en 2012 de la naissance.
On fête aussi la parution des Misérables. Enfin,
beaucoup d'anniversaires en 2012.
Beaucoup d'anniversaires, oui.
Et merci de nous avoir fait partager votre amour, votre considération pour cet illustre écrivain. Nous nous retrouvons pour d'autres émissions sur Victor Hugo sur canalacademy.com.
Merci.
Merci Marc Bressan.
Beaucoup.